Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Racontez-moi des salades. Deux promesses que je vous avais faites la dernière fois. Première promesse, nous allons parler encore une fois de boulangerie parce que nous allons parler de pain et notamment de pain maudit d'Ergot du Seigle. C'est donc toujours le cas. En revanche, promesse non tenue pour cette émission, nous n'accueillerons pas William pour la musique aujourd'hui, qu'il sera là pour la prochaine émission et c'est moi qui choisirai la musique. Vous n'allez pas être déçus, puisque pour parler de pain, nous allons démarrer avec la chanson du pain de John Wawapapi. Si vous avez plus d'informations sur cette chanson et d'où elle vient, je suis preneuse car je trouve assez peu d'informations. Et donc pour démarrer, la chanson du pain de John Wawapapi, paroles et musique. Cette chanson, je vous encourage à aller la voir sur YouTube, puisque le son que vous allez entendre est produit quasiment exclusivement par le frottement des mains de John Wawapapi sur une baguette.
Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit repas. Comme à chaque fois, ce n'est rien qu'un peu de mie, du blé, de lait. Mais ça a suffi pour changer nos vies. On n'oubliera pas tous ceux qui ont un peu faim, tous les miséreux, ceux qui n'ont plus rien. Comme autour d'un feu de bois, on s'est retrouvé. Ce moment de joie nous a réchauffé. De la braise viendra la flamme jusque dans nos âmes. Juste pour être heureux, il nous faudrait que. Ce n'est pas un grand festin, oui, mais c'est bien mieux quand il y en a pour un. Il y en a pour deux, s'il nous reste quelques miettes au fond de l'assiette, c'est pour les oiseaux avec un peu d'eau. Si j'avais un peu de faim au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit refrain qui nous fait du bien.
Août 1951. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en pleine époque de reconstruction, la petite ville de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, et ses quelques 10 000 spiripontins devient soudainement célèbre, tristement célèbre, par l'affaire du pain qui rend fou, comme elle sera surnommée par la presse cet été-là. Le 17 août 1951, les médecins locaux voient en effet affluer des dizaines de patients dans leur cabinet atteints de troubles digestifs, qui font d'abord penser à une intoxication alimentaire. Nausées, vomissements, diarrhée. Mais les choses s'aggravent rapidement. De plus en plus d'habitants souffrent d'insomnie et de fatigue chronique dans les jours qui suivent. Et dans les 48 heures qui suivent les premiers symptômes, certains commencent même à souffrir d'hallucinations. Celles-ci mettent principalement en scène des animaux et du feu. Certains ont l'impression d'héberger des serpents dans leur ventre, d'autres se jettent contre les murs et ont l'impression que leurs organes se déplacent dans leur corps. Certains tentent même d'étrangler leurs proches ou sautent par des fenêtres.
On partait en vélo, moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués et on était fada.
Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile qui ne rime absolument à rien. Sans arrêt, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, Et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal.
Parmi les malades, les quelques 500 personnes infectées, 7 vont en mourir, 46 seront internés dans des asiles et nombreux seront ceux qui ne pourront pas reprendre leur emploi. La nuit du 24 au 25 août sera même surnommée par la presse la nuit de l'apocalypse. Et alors qu'aucun traitement ne semble efficace pour soigner la folie qui s'empare de ces habitants de Pont-Saint-Esprit, les médecins du village commencent à chercher ce qui relie toutes ces personnes atteintes d'hallucinations. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent qu'elles auraient toutes consommé du pain acheté dans la boulangerie de la Grand-Rue, la seule à avoir repris la confection du pain blanc en cette époque d'après-guerre. Cette folie générale ne pourrait donc s'expliquer que par un ingrédient qui aurait été incorporé au pain confectionné dans la nuit du 15 au 16 août. Et cette boulangerie considérée comme la meilleure de la ville est tenue par Roque Briand, qui sera très rapidement désigné comme le responsable de ces troubles mentaux. Il aurait, dit-on, involontairement utilisé de la farine contaminée. Puis ce sera au tour d'un meunier poitevin qui lui fournit la farine, M. Maillet, d'être pointé du doigt. Dans son édition du 22 août 1951, Le Monde évoque cette affaire et indique que le service des fraudes a fait des prélèvements dans le fournil de la boulangerie suspectée. Et le journaliste ajoute cette anecdote pour le moins intéressante. La population, qui ne veut plus manger de pain, a fait des achats massifs de biscottes et on n'en trouve plus un seul paquet à Pont-Saint-Esprit. En effet, le pain empoisonné est déjà devenu dans l'esprit de beaucoup le pain tueur. Qu'est-il arrivé à cette fameuse farine contaminée? C'est l'hypothèse du retour de l'ergot du seigle qui est rapidement évoquée par les scientifiques. Cette maladie est causée par une plante ou un champignon et elle est due à une forme de moisissure qui a disparu en France depuis le XVIIIe siècle. Moins d'un mois après cette hallucination collective, un docteur de cette petite ville, le docteur Gabaye, écrivait ainsi dans le British Medical Journal que la fréquence des symptômes mentaux ramène à l'esprit le vieux nom de la maladie, nommé au Moyen-Âge le mal des ardents. Malgré ces hypothèses plus ou moins scientifiques, dès septembre 1951, des scientifiques évoquent plutôt une épidémie d'empoisonnement, considérant que cette moisissure ne pouvait pas expliquer les événements et les maux dont souffrirent certaines des personnes de Pont-Saint-Esprit. Quant au boulanger Roque Briand, très apprécié dans le village, il est rapidement innocenté et il ne cessera jamais de clamer son innocence.
Ils n'ont jamais pensé que c'était le boulanger qui avait fait l'empoisonnement. Ils se sont rendus compte tout de suite qu'il y avait un problème du pain. Ils ont pensé à la farine. Mais la farine, vous savez, j'ai bien dit tout à l'heure, je vous dis que la farine n'était pas de bonne qualité, mais pas spécialement à la boulangerie ici. Tout le Gard en avait une très mauvaise farine.
Mais malgré cela, il se suicidera quelques années plus tard. Les choses ne vont pas de même pour le meunier, puisque les habitants, dit-on, auraient applaudi son arrestation le 1er septembre 1951 et son incarcération, avant de s'opposer à sa libération évoquée par son avocat quelques jours plus tard. De nombreuses enquêtes ont donc été menées, de nombreux dépôts de plaintes recensés, et l'affaire est finalement abandonnée par l'État français en 1978, soit plus de 20 ans après. Ce qui n'empêchera pas les curieux, ou plutôt les journalistes d'investigation zélés, de continuer leurs recherches. Et c'est ainsi que fin 2019, un journaliste américain, Anca Albarelli, propose une théorie toute nouvelle concernant cet épisode de folie à Pont-Saint-Esprit. Il revient donc sur ces événements dans son livre « A Terrible Mistake », une erreur terrible, en affirmant avoir la vérité de sources sûres.
En effet, alors qu'il enquête sur la mort d'un scientifique de la CIA, le biochimiste Frank Olson, qui est spécialiste en drogues dures comme le LSD, le hasard le met sur la piste des événements de Pont-Saint-Esprit. Ce biochimiste, dit-on, se serait rendu en France à Pont-Saint-Esprit quelques semaines avant le drame et aurait confié à sa femme à son retour aux États-Unis qu'il avait commis une terrible erreur. En 1953, soit 2 années après le drame, il va se défenestrer à New York après avoir ingéré du LSD à son insu. Et en 1975, la Maison Blanche détruit les résultats des expériences de Frank Olson. Pour le journaliste Angabarelli, donc, pas de doute, la CIA est à l'origine de l'hallucination collective des spiripontins, qui serait due à une pulvérisation aérienne massive de LSD et à une contamination volontaire des aliments. Il dit même qu'il en aurait eu la confirmation auprès d'anciens agents des services secrets américains qui lui auraient fourni des documents classés top secret.
Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche.
L'explication du journaliste est donc que si les médecins ont d'abord pensé à la maladie de l'ergosec, ce serait parce que le LSD est en effet une forme dérivée chimique de ce parasite. Il a été découvert par hasard en 1943 par un chimiste suisse du nom de Hoffmann. Mais le journaliste signale en plus que les premiers scientifiques ayant étudié ce phénomène et conclu à une contamination du pain travaillaient en réalité pour la compagnie pharmaceutique suisse Sandoz, nommée aujourd'hui Novartis, qui aurait fourni secrètement du LSD à la CIA pour ses recherches. Aujourd'hui, la DGSE française, donc les services secrets français, n'admettent pas ou réfutent le fait qu'ils auraient bien demandé des comptes à ce sujet à la CIA, comme l'affirme Anca Albarelli. Mais dans l'hypothèse où la CIA américaine aurait bien empoisonné les habitants, quelle pourrait être la raison, selon le journaliste? Il explique dans son livre que la CIA aurait expérimenté les effets du LSD en tant qu'arme chimique. On est en effet dans un contexte de guerre froide et la CIA aurait été à la recherche d'un produit qui lui permette de gagner une guerre sans tirer un coup de feu. Toute cette histoire est une bien belle histoire pour un polar. Mais si la théorie du complot exposée par le journaliste est séduisante, elle peut être mise en cause pour de multiples raisons. En effet, à l'époque, personne n'a vu d'Américain dans la ville, ni d'inconnu mystérieux. Pourtant, si la CIA testait réellement des effets produits par la pulvérisation de LSD ou par la contamination des aliments, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle les observe d'un peu plus près. Et une autre faille de cette histoire est que l'absorption de LSD, involontaire ou non, ne provoquerait pas de troubles digestifs, comme on l'a pourtant observé lors des épisodes de folie à Pont-Saint-Esprit.
Et puisque nous parlons de LSD, tout de suite une chanson bien connue d'un groupe bien connu lui aussi.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's
sky with diamonds. Lucy in the sky with
rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Et voilà, c'était Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, une chanson qui date de 1967.
Enfin, hormis l'ergot de seigle ou le complot mené par la CIA, d'autres hypothèses ont été avancées pour expliquer la folie collective qui s'est emparée de Pont-Saint-Esprit en août 1951. Parmi toutes ces hypothèses, on peut en citer deux. L'hypothèse panogène, qui avance que qu'une intoxication au dicyandiamide de méthylmercure pourrait expliquer cette situation. Ce produit était en effet contenu dans un fongicide du nom de panogène, qui était utilisé pour améliorer la conservation des grains à l'origine de la farine. Cette théorie a été retenue pendant un temps, puis elle a été abandonnée en 1965. Une autre hypothèse est celle de la gêne, qui a été avancée par Stephen Kaplan, qui est un auteur américain ayant écrit le livre Le pain maudit, un polar qui reprend cette histoire. Lui, il retient l'hypothèse d'un blanchiment artificiel du pain avec un produit chimique pathogène, la gêne. Et en effet, il rappelle qu'au lendemain de la guerre, les Français réclament le retour du pain blanc. Et donc, à Pont-Saint-Esprit, la seule boulangerie qui avait repris la fabrication du pain blanc, c'est bien celle de Roquebriant qui aurait contaminé les habitants. Encore une hypothèse qui a été abandonnée après un temps. Voilà, mais cela pose de nombreuses questions sur la manière de fabriquer le pain à cette époque et encore aujourd'hui. Et ce fait divers assez mystérieux et non élucidé encore à ce jour a inspiré de nombreux écrivains et réalisateurs pour la télévision. Je vous invite donc, si vous voulez en savoir plus ou voir cette histoire sous un autre angle, voir le magazine que Hubert Delobette a sorti aux éditions Papillon Rouge, qui se nomme Histoire vraie en Languedoc-Roussillon, mais également le livre de Stephen Kaplan qui est sorti en mai 2008, Le pain maudit aux éditions Fayard, dans lequel il reprend toute l'enquête comme un polar. Le livre de Anca Albarelli également, A Terrible Mistake, The Murder of Frank Olson and the CIA Secret Cold War Experiment, a fait beaucoup de bruit, où il accuse la CIA Et enfin, en 2010, France 3 diffusait un téléfilm, le 13 février, très exactement, inspiré du livre de Steven Kaplan intitulé « Le pain du diable ». Et oui, on continue sur les chansons des années 60 avec un extrait à l'instant de « Du pain et du beurre » de Claude François qui date de 1964.
Quelques mots supplémentaires sur l'ergotsèque, donc cette fameuse maladie. Ce fléau qui a ravagé l'Europe au Moyen-Âge et qui était surnommé le mal des Ardents ou encore le feu de Saint-Antoine et qui était attribué au diable tellement il était terrible. Puisqu'en effet, les symptômes étaient nerveux, des convulsions, des contractions musculaires, de la gangrène, des hallucinations, des délires et des intenses sensations de brûlure étaient ressenties comme une véritable descente aux enfers. Et c'est qu'à partir du XVIe siècle que le lien est fait entre le seigle avarié, dû à l'ergot, et que la maladie prend le nom d'ergotisme. C'est donc l'ergot de seigle, un champignon qui contamine la farine avec des alcaloïdes et utilisé pour faire du pain, celle-ci intoxiquait ensuite ceux qui en mangeaient. C'est un ordre religieux, donc les Antonins, qui va se consacrer à soigner les malades à cette époque. Le champignon à l'origine de la maladie sera longtemps considéré comme un agent pathogène en Occident. Pourtant, en Orient, on lui connaissait depuis longtemps des vertus médicinales, notamment en médecine chinoise. Et l'industrie pharmaceutique va donc commencer plutôt à s'y intéresser au début du XXe siècle. Bien plus tard donc, une fois qu'on arrive à isoler l'ergotamine, donc en 1918 précisément, on s'aperçoit que cet alcaloïde provenant de l'ergot de seigle a des propriétés antimigraineuses et qui favorise la microcirculation sanguine. Il est donc toujours utilisé dans plusieurs médicaments. Et c'est aussi en s'intéressant à cette famille d'alcaloïdes que le chimiste Albert Hofmann, le chimiste suisse dont on a parlé un peu plus tôt, découvrira le LSD. On voit donc le seigle, cette céréale qui nous paraît commune, met à elle seule en évidence qu'entre poison à l'origine de l'ergotisme, molécules médicamenteuses et psychotropes à usage récréatif, les frontières sont parfois un peu plus ténues qu'il n'y paraît. Et pour terminer donc sur l'ergot de seigle, j'ai posé la question à Alex et Maria, boulangers à Barnave. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de l'ergot de seigle, ce qu'ils en savaient et s'ils pensaient qu'aujourd'hui encore nous pourrions avoir de telles contaminations. Et voici ce qu'ils m'ont répondu.
Ben, je pense, en tout cas, c'est un truc dont on ne parle plus du tout au CAP, et parce que je pense que c'est un truc qui a un petit peu disparu, en fait. Et moi, j'en ai entendu parler juste par les bouquins que j'ai lus sur le pain ou l'histoire du pain, les choses comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui a, ouais, qui n'existe plus, quoi, qui a disparu.
Bonjour Maria, du coup on a parlé de l'ergot de seigle dans cette émission, mais sur une note un peu plus positive quand même, j'aimerais bien terminer sur où est-ce qu'on trouve de la farine de seigle, c'est quoi les recettes du boulanger on trouve de la farine de seigle aujourd'hui ?
Eh ben du coup on a le traditionnel pain de seigle à la fin de l'année pour manger avec du beurre et des huîtres. On trouve de la farine de seigle dans l'appellation pain de campagne. Et le seigle était au Moyen Âge la farine du pauvre, puisque du coup c'était une céréale très rustique qui du coup demandait pas beaucoup de soins à une époque où on n'avait pas encore les pesticides, les fongicides et on connaissait pas encore la biodynamie. Donc du coup c'était la farine cultivée par les pauvres et ils faisaient du pain qui gardait tout l'hiver. Donc ils faisaient une grosse session de pain après la récolte et du coup ils transformaient leur céréales en farine. Ensuite ils cuisaient, donc ils fabriquaient leur pain, ils le cuisaient et ils le gardaient tout l'hiver. Donc à la fin il était dur comme du bois et on le faisait ramollir dans la soupe. Voilà.
Et pour terminer cette émission en musique, comme promis, on termine avec un groupe de fun metal, Ultra Vomit, avec la chanson, bien entendu, Boulangerie-Pâtisserie, qui date de 2008. Voilà, à la semaine prochaine.
Oh, la cloche de l'école vient de sonner. Les petits enfants ont bien travaillé. Ils, avant de rentrer chez eux, s'ils ont un petit creux, ils pourront faire un tour dans un endroit très merveilleux. Boulangerie, pâtisserie, des petits gâteaux à tout moment du temps.